France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h19. Le Togo qui décrète l'état d'urgence sanitaire. L'Érythrée qui bascule en confinement général pour 3 semaines. Même chose au Botswana pour 1 mois. Voilà quelques exemples qui montrent que l'Afrique tente à son tour de se protéger contre le coronavirus. L'épidémie progresse vite dans ce continent, selon l'OMS. Bonjour Alexandre Giraud.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Solidarité Internationale. C'est une ONG qui est présente dans une douzaine de pays africains, notamment le Cameroun et le Burkina Faso, qui font partie des pays les plus touchés. Que vous disent les équipes que vous avez sur place? Qu'est-ce qu'elles vous rapportent?
Alors, nos équipes sur place, on est sur ces situations très différentes selon les pays. On a par exemple des pays qui ont assez rapidement fermé leurs frontières et on a un trafic aérien qui est quasiment nul désormais avec ces pays-là. Des mises en place de mesures de distanciation sociale, par exemple, mais finalement pas encore de mesures liées à du confinement et des aspects liés à la quarantaine ou à l'isolation qui sont assez fluctuantes et qui sont dépendantes uniquement de la bonne volonté des personnes. Mais là où on est le plus inquiet, c'est bien entendu sur la question de l'état du système sanitaire. Par exemple, au Burkina Faso, on parle de la présence uniquement d'une centaine de tests et de 16 lits prévus pour la réponse. Et au Cameroun, par exemple, quand on lit la presse camerounaise, on peut se rendre compte qu'ils font état d'hôpitaux qui sont plus malades que les patients. Donc les grosses inquiétudes sont vraiment au niveau du système sanitaire et la capacité à prendre en charge les épidémies.
Et donc cette situation différenciée fait, j'imagine, que votre action est différente aussi en fonction des pays, les besoins sont différents.
Alors pour l'instant, on est effectivement au tout début de cette crise et ce que je répète sans arrêt à mes équipes, c'est que ça va être un marathon, ça va durer très longtemps. C'est-à-dire que là où probablement en Europe, on va avoir une phase aiguë qui va durer sur quelques semaines, quelques mois, vu l'état du système sanitaire et vu la nature en fait de l'économie dans ces pays-là, on est sur une économie qui est principalement informelle. Donc les personnes vont devoir sortir pour gagner leur vie chaque jour, pour s'alimenter, parce que la plupart des ménages n'ont par exemple pas de frigo, ou même pour aller chercher de l'eau, parce que souvent il faut faire plusieurs kilomètres, en tout cas plusieurs centaines de mètres, pour aller chercher de l'eau au puits. Et donc en fait, confiner la population va être probablement impossible. Et si vous combinez ça avec des grosses faiblesses de système sanitaire, on va probablement avoir une situation qui va durer pendant plusieurs mois dans ces pays-là. Donc on s'attend vraiment à un deuxième semestre de l'année qui va être très intense en termes de réponse et d'action humanitaire.
Ce que vous nous dites donc, c'est qu'il est impossible de calquer les méthodes que l'on applique en ce moment en Europe qui ont été appliquées en Asie. C'est pas possible.
C'est impossible, parce que vous avez, comme je le disais, une économie qui est principalement informelle, donc on va avoir des populations qui vont être obligées de se déplacer pour survivre. On est sur une économie de survie qui va nécessiter un déplacement. On n'aura pas les mesures économiques proposées par les États européens en termes de soutien à l'économie et aux entreprises. Ça va pas être possible. Donc forcément, si vous combinez ça effectivement avec un état sanitaire, il y a des pays, par exemple, où le nombre de respirateurs se compte sur les doigts des deux mains.
Par exemple, quel pays?
En termes de prise en charge. Au Tchad, par exemple, on a très peu de respirateurs. Donc ça fait partie des problèmes qu'on peut avoir. Et ces capacités médicales qui sont déjà extrêmement sollicitées par d'autres types d'épidémies, type malaria, HIV, tuberculose, ou même la rougeole, par exemple en RDC, on a été une épidémie de rougeole, il va y avoir aussi un problème de comortalité sur ces pathologies-là.
À propos de la rougeole, j'ai vu que l'OMS et la Banque mondiale s'inquiétaient d'une conséquence du confinement, que ça limite en fait les vaccinations de routine et que finalement ça provoque une recrudescence d'autres épidémies et notamment de la rougeole qui tue quasiment 150 000 personnes dans le monde chaque année, principalement en Afrique.
Exactement, nous ça fait partie, effectivement on n'est pas un acteur médical mais on travaille effectivement beaucoup avec des acteurs humanitaires médicaux et c'est effectivement ces autres pathologies qui risquent d'être exacerbées par par le stress qu'il va y avoir sur notamment le système médical et éventuellement effectivement par les effets du confinement si le confinement est respecté.
Alors oui, solidarité internationale, hein, c'est pas un acteur médical comme vous dites. Votre cœur de métier, vous, c'est l'accès à l'eau potable et la lutte contre les maladies liées à l'eau. Vous avez mis de côté cette activité pour le moment pour vous recentrer sur d'autres choses ou c'est encore ce que vous faites aujourd'hui en Afrique ?
Ah non, pour nous, c'est une activité fondamentale, notamment dans la lutte contre le Covid-19, parce que si vous parlez d'hygiène, si vous parlez d'accès à l'eau, c'est la base pour les gestes barrières et pour les mesures justement de prévention. Si vous n'accédez pas à l'eau, bien entendu, se laver les mains, qui est la première et la plus utile des mesures barrières, n'est pas possible. Donc nous, c'est quelque chose qu'on va largement renforcer. Ça va être aussi la mise à disposition de produits d'hygiène, du type savon, qui vont être fondamentaux aussi pour prévenir cette maladie. Et on a travaillé très souvent en support justement à des crises sanitaires aiguës du type Ebola, du type choléra. Et là aussi, en termes d'adaptation des centres de santé au traitement d'épidémies, on peut avoir des actions qui s'y apparentent et qui permettent de renforcer ou d'adapter des lieux au traitement de grands nombres de malades sur type de pathologie.
Vous parliez du savon, est-ce que vous essayez aussi d'apporter des masques, des gels hydroalcooliques ou toutes sortes de protections aux populations ?
Alors pour l'instant, notre priorité au tout début de cette épidémie, ça va être déjà la sécurité de nos équipes. Et se procurer ce matériel est compliqué. Actuellement, on trouve encore quelques fournisseurs. Mais notre problématique, par exemple, va être extrêmement logistique. C'est-à-dire qu'actuellement, vous avez la majeure pays qui sont fermés en termes de frontières aériennes. Donc on va avoir cette problématique très importante de faire arriver du personnel sur les terrains d'intervention, parce qu'on va avoir besoin de renforcer nos équipes, et faire parvenir du fret humanitaire. Et là aussi, c'est extrêmement compliqué, parce qu'on a d'un côté souvent des chaînes de production qui sont à l'arrêt, et de l'autre, du fret international qui est extrêmement perturbé, parce qu'on a effectivement des frontières qui se ferment et des compagnies qui sont plus en mesure d'assurer le transport.
Et donc aujourd'hui, quel est le trajet qui reste disponible ? Vous vous fournissez où ? Vous passez par quels aéroports ?
Il y a des hubs au Moyen-Orient qui sont encore possibles. Mm-hmm. Il y a des dérogations qui sont appliquées pour le fret humanitaire, mais elles sont encore trop limitées. Donc actuellement, on a commencé des actions de plaidoyer avec la communauté humanitaire pour justement pouvoir obtenir des dérogations pour le personnel et le fret humanitaire, parce que si on est empêché de la manière dont on est actuellement de pouvoir faire parvenir nos équipes et le fret sur les théâtres d'opération, on va avoir un impact de crise qui va être vraiment catastrophique.
Ça peut être catastrophique pour quel genre d'endroit ? Qu'est-ce qui est le plus difficile, le plus dangereux ? C'est quoi ? C'est les mégapoles avec un tissu urbain très dense, avec des bidonvilles, ou les zones reculées qui sont difficiles d'accès ? Ou les deux ?
Je pense que c'est très, très dur de prévoir à ce stade où ça va être effectivement le plus impacté. Évidemment, les mégalopoles avec une forte densité vont être probablement très impactés. Mais vous pouvez voir depuis les annonces d'appels, limitation de déplacement et de confinement, beaucoup de retours de travailleurs délocalisés des mégalopoles vers les provinces. Et donc là, on va avoir justement des vecteurs d'infection qui vont être extrêmement importants dans les zones très reculées. Et souvent, c'est des zones aussi qui sont affectées par des conflits internes, par tout type de facteurs de crise humanitaire et qui rendent beaucoup plus difficile l'accès. Donc on a aussi cette problématique-là, c'est qu'on a des zones sur notre cadre d'opération qui sont déjà compliquées d'accès parce qu'il y a des conflits internes. Et si on n'a pas un cessez-le-feu, comme c'est demandé actuellement, notamment par le secrétaire général des Nations Unies, on va avoir effectivement un empilement de contraintes à la réponse qui va rendre la réponse très difficile.
Merci. Merci beaucoup Alexandre Giraud, directeur général de Solidarité Internationale. Vous étiez l'invité du 5-7.